À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question du fondateur des Oblats de la Vierge Marie. Il ne faut pas confondre ça avec les Oblats de Marie Immaculée. Les Oblats de la Vierge Marie ont été fondés au début du 19e siècle par Bruno Lanteri. C'est un prêtre italien du nord de l'Italie. Et il y a à Montréal des Oblats de la Vierge Marie, en particulier à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, sur le boulevard Monk. Et le curé en est le père Gérald Lajeunesse, un prêtre dynamique, de même que son vicaire François Lapointe. Ce sont des Québécois remarquablement dynamiques, je vous assure. Et je m'inspire justement d'une brève vie de Bruno Lanteri, du père Lanteri, écrite par deux d'entre eux, le père Guy Simard et Stéphane Thériault. Il y a aussi une vie qui a été écrite par Léon Christiani, parue chez Médiapol. Bruno Lanteri, un prêtre pour des temps nouveaux, 1759-1830. C'est un ouvrage qui n'est pas très long, illustré, bien fait, qui n'a pas 200 pages et qui nous explique certains problèmes extrêmement cruciaux, cette lutte qu'il a eu à mener lui-même contre le jansénisme. La vie du père Lanteri nous montre d'ailleurs qu'il veut devenir un saint. Le père Lanteri, c'est l'exemple d'un homme qui aurait choisi vraiment là le clan de Dieu, si on peut dire. Puis il est devenu par là absolument fascinant. Hein. La vie de cet homme est beaucoup plus que la possibilité d'une simple vie avec Dieu. Elle est la preuve d'une vie en Dieu. Quand on la lit, on est bouleversé. Sa vie nous parle de Dieu, ou mieux, on pourrait dire que Dieu nous parle par sa vie. Et pourtant, la vie de cet homme, de ce prêtre, ressemble à la nôtre. Il n'y a rien d'extraordinaire dans sa vie. Sinon, l'extraordinaire de ce qu'il est. Et on a besoin aujourd'hui de ces saints qui sont si proches de nous, proches de la vie, j'oserais dire si humains, si communs, qu'ils nous permettent de redécouvrir l'Évangile dans le quotidien, aujourd'hui. Et on a besoin d'eux parce qu'ils nous rappellent la chose la plus importante, c'est que la réussite de notre vie ne dépend pas d'abord de ce que l'on fait, mais de ce que l'on est. Ne nous décourageons pas si on n'a, semble-t-il, rien à faire, si on est arrivé à la fin de nos jours et que l'on ne peut plus rien faire. On est, et c'est ce qu'on est qui compte. Et malheureusement, lorsque nous contemplons la vie des saints, ça m'arrive parfois de vous en raconter de tellement extraordinaires que nous sommes si impressionnés par ce qu'ils ont fait, et que nous oublions que le vrai mystère de leur vie, le mystère de toute vie chrétienne, consiste à quoi? Ben à laisser agir Dieu dans nos vies. Puis à dire, comme Marie, tout simplement, qu'il me soit fait selon ta parole. Hein? On récite ça le midi à Radio Ville Marie, à l'Angélus. C'est dans Saint-Luc, au chapitre 1, ça. Et la vie des saints devrait toujours être le rappel si simple de ces paroles de Dieu pour chacun de nous. Hein? On les connaît, hein? Vous connaissez ça, ces paroles-là. Tu as du prix à mes yeux. Oui, n'importe qui a du prix aux yeux de Dieu. L'enfant à naître aussi bien que le vieillard qui n'a presque plus conscience de lui-même. Ou encore, cette parole aussi. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma faveur. On disait toute ma complaisance. Ça s'adresse à nous aussi. Contempler la vie du père Lanteri devrait nous aider à saisir de quel amour chacun de nous est aimé de Dieu. Tout cela, la vie de Lanteri, de père Lanteri, se passe dans le nord de l'Italie. Vous savez que le nord de l'Italie, c'est plus haut que le sud de la France. Hein? On se rend pas compte de ça. Parce que l'Italie, elle gruge à l'intérieur de l'Europe, au sud de la Suisse. Et c'est à Coni, C-O-N-I, dans une ville qui appartenait au royaume de Sardaigne. La Sardaigne, c'est une grande île. Mais ils avaient conquis, et c'était leur royaume, ça, dans le nord de l'Italie, au cœur de l'Europe, quoi. Et c'est là, à Coni, que, peu après leur mariage, en 1746, Pierre Lanteri, qui est mort en 1784, puis Marie-Marguerite Fénot, liée à sa femme, qui est morte en 1763, au moment de la cession du Canada en Angleterre, mais sont venus s'installer, et là, Pierre Lantéri, le père, vient de terminer sa médecine à l'université de Pavie. Et c'est là que Pio Bruno Lantéri voit le jour le 12 mai 1759, c'est l'anniversaire de sa naissance. Il est le septième enfant d'une famille de 10, imaginez. Mais le drame frappe rapidement la famille. Après 5 enfants morts en bas âge, voilà que la mère meurt, en mettant au monde son 10e enfant. Elle meurt à 34 ans. Au décès de sa mère, Bruno a 4 ans. Son père, le docteur Lantéri, homme de foi profonde, consacre alors sa famille à la Sainte Vierge. Toute la vie de Bruno Lantéri, de sa naissance à sa mort, est marquée d'ailleurs par la présence de Marie. L'absence de sa mère devient présence de la Vierge, comme sa mère. Elle comble le vide. Il reçoit tout d'elle. Et c'est elle qui lui découvre, on peut dire, ce qui sera fondamental dans sa vie. Qu'est-ce que c'est qui est fondamental dans sa vie? C'est la présence de l'Église. Celle en qui il va trouver aussi une mère. On n'a pas conscience jusqu'à quel point le fait d'appartenir à cette magnifique et merveilleuse et splendide église dont on ne parle que des rides sans parler de sa grandeur, de sa beauté et de sa jeunesse intérieure. C'est ce que j'essaie de faire à cette émission, de vous montrer toute la jeunesse de l'église, constante. Le docteur Pierre Lantéri est un admirable éducateur pour son fils Bruno. Or, le jeune Bruno, lui, c'est un passionné de l'étude et ça lui convient, ça. Alors, à l'exemple de son père médecin, il éprouve une préférence marquée pour les mathématiques et les sciences exactes. Il apprend aussi de son père l'esprit de service. C'est un service qui est marqué par, évidemment, la modestie, l'humilité. Car son père est un vrai chrétien. Comme son père, il ne cherchera jamais les honneurs, les places en vue. Il va préférer toujours travailler dans l'ombre. La pauvreté en esprit consiste dans le détachement du cœur, écrit-il, non seulement des objets, mais aussi des honneurs mondains. Au fil des ans, le jeune Bruno Lantéri apprend à connaître Dieu et à aimer sa volonté. La vie de prière l'attire au point qu'à l'âge de 17 ans, j'ai bien dit, il décide d'entrer chez les Chartreux, l'ordre le plus sévère, le plus difficile. J'ai fait moi-même une tentative et je ne le conseille pas à tout le monde. C'est très difficile. Il porte en lui cette soif de la contemplation, de la rencontre avec Dieu. Il porte en lui le goût d'une vie solitaire et cachée. Et en 1776, fait donc son entrée, à 17 ans, à la chartreuse de Chiusa Pesio, une des plus belles d'Italie. Mais 8 jours plus tard, jugé trop frêle et de santé trop fragile, il est renvoyé. Une porte se ferme et Dieu va lui ouvrir d'autres chemins. Alors, il retourne aux études. Il est toujours intéressé aux mathématiques. Mais il doit interrompre ses études à cause d'une maladie chronique aux yeux qui l'incommodera d'ailleurs toute sa vie. Encore une fois, tout semble sans issue pour lui. Mais c'est au cours de cette espèce de retraite forcée qui ressemble à celle de Guy de la Rigaudie hier, où Dieu le pousse à une véritable solitude et à un authentique silence. Ça fait du bien, ça. Et c'est là que la volonté de Dieu, sur lui, se manifeste. Dieu désire qu'il devienne prêtre. Ainsi, à l'automne 1777, à 18 ans, Bruno entreprend ses études théologiques à l'université de Turin. Il y consacrera 5 années de sa vie. Et dans le nord de l'Italie, comme vous savez, Turin, je vous l'ai dit souvent. Il obtient son diplôme universitaire et le 15 août 1789, en la fête de l'Assomption, Bruno Lantéri se consacre totalement à la Vierge Marie. À la veille de son ordination comme prêtre, le 25 mai 1782, à 23 ans, C'est jeune, hein? Mais c'était comme ça dans ce temps-là, et jusqu'à il y a tout récemment, on ordonnait des prêtres à 23 ans, avec permission spéciale, car l'âge était supposé être minimum 24 ans. Alors il écrit à ce moment-là, la veille de son ordination, au cours d'une retraite préparatoire, les textes suivants qui laissent transparaître sa piété mariale, puis aussi l'influence chez lui de la spiritualité de saint Ignace de Loyola. Je vous en lis de brefs extraits. Se décider, j'aime bien ces deux mots-là, se décider à servir Dieu avec perfection, ne pas avoir honte, le montrer à tous et ouvertement être heureux d'être bon chrétien, tenant pour roi son Dieu et non le monde et ses lois. Il écrit aussi « Je veux avoir un tendre amour envers la Vierge Marie et une confiance filiale envers elle. » Je vous rappelle que Turin, qui est une ville de 90 000 habitants à ce moment-là, est capitale du royaume de Sardaigne, comme je vous ai dit. Ce sera jusqu'à la fin de sa vie le lieu privilégié de son activité sacerdotale. C'est là qu'il va exercer son ministère. Et à 18 ans, d'ailleurs, je reviens en arrière, quand Bruno Lantieri arrive à Turin en 1677, il est semblable à bien des jeunes d'aujourd'hui qui quittent leur village ou leur famille pour se rendre à la ville afin d'y étudier et d'y travailler. Et à peine arrivé, là, il éprouve, lui aussi, la solitude et l'isolement dans cette ville. On peut essayer d'imaginer ce jeune qui, à l'âge de 18 ans, fait ses premiers pas dans cette impressionnante capitale du royaume de Sardaigne, Turin. Comme tout doit sembler démesuré, même si sa volonté de servir Dieu ne le fait pas reculer quand même. Ce sentiment de solitude doit se creuser, d'autant plus qu'à Turin, sa condition physique se détériore à tel point qu'il a un besoin de l'aide d'un de ses confrères et amis, le clerc Pellegrino, qu'il a connu à Coni, la ville de sa naissance. Mais ce confrère profite de l'occasion pour lui inculquer les principes du jansénisme. J'en ai glissé un mot au début. C'est une doctrine religieuse que vous connaissez peut-être, qui est caractérisée par une morale extrêmement sévère et rigoriste. Alors, vers 1779, Bruno Lantieri rencontre heureusement le père jésuite Joseph Nicolas von Dispach. Je donne son nom. C'est un jésuite fameux qui a eu une grande influence sur lui, est âgé alors de 47 ans, et c'est à son contact, et au contact d'une théologie et d'une spiritualité de saint Ignace authentique, que le jeune Bruno reconnaît que le jansénisme qu'il a bien failli embrasser repose sur une bien fausse conception de Dieu et de l'homme. Alors, le jeune prêtre Bruno Lantieri, formé grâce à au père Joseph Nicolas von Dispach, il est formé aux exercices spirituels de saint Ignace, qui se donne à saint Jérôme chez les jésuites et ailleurs aussi. Le père, là où l'abbé Lantieri, se rend compte rapidement du discernement aussi, que toute amitié exige, ou bien pas ami avec n'importe qui. Il tient à choisir des amis qui ne soient pas jansénistes, qui soient vrais et sincères, avec lesquels il pourra travailler au service de Dieu. Par amour, toujours. Et c'est au contact du père Dispach qu'il découvre la profondeur de l'amitié, puis qu'il en fait une réalité de sa vie. Mais cette amitié spirituelle n'a qu'une source, un seul but. Le Christ, et le désir que tous développent une amitié avec Jésus-Christ. C'est au fond le but de l'existence de Radio Ville-Marie, puis de Rencontres spirituelles. Le désir que nous avons à Radio Ville-Marie, que tous développent une amitié avec le Christ. C'est là quelque chose de fondamentalement ignatien, être en compagnie de Jésus. Le précepte de l'amour fraternel est d'ailleurs très présent dans la spiritualité du fondateur des Oblats de la Vierge Marie. Le père Lantieri a vécu toute sa vie dans une amitié constante avec le Christ. il a laissé à ses confrères des pages sublimes, admirables, sur cette union avec Jésus, que l'oblat de la Vierge Marie doit vivre à tout instant du jour. Si vous allez à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours sur le boulevard Monk, vous serez témoin de ça. C'est chez Oblat qui anime cette paroisse et qui font aussi de la direction spirituelle pour les âmes qui ont besoin d'un prêtre pour savoir où ils en sont et où ils veulent aller. La vocation d'un être humain, c'est quelque chose de mystérieux, c'est l'écho de cette parole de Dieu qui nous crée homme ou femme à chaque instant, comme elle est l'écho de cette parole qui nous fait fils ou fille de Dieu au baptême. Quand on y pense, deux secondes, de toute éternité, Dieu nous désire. Il nous désire. Et voilà qu'un jour il nous appelle par notre nom, un nom qui nous donne vie. Et ça, cette parole fonde notre être. Dieu m'appelle par mon nom et un nom qui n'est qu'amour. Toute ma vie ne sera que le déploiement à mes yeux et aux yeux du monde du mystère que je suis. Et ce à quoi je suis appelé, c'est quoi? C'est à l'accueil de ce don qui m'est fait de la vie de créature et comme baptisé de la vie d'enfant de Dieu. C'est fantastique vivre. Accueillir le don que du fait que la matière, la poussière dont je suis fait soit vivante. Et comme baptisé, je suis enfant de Dieu. Ma réponse d'amour à ce don, ou à ces dons, fera de mon existence une mission, et puisque par amour, Dieu s'est engagé par son Fils dans mon histoire, là, mais je m'engage, moi, maintenant, à la suite du Fils. Dans l'histoire de Dieu, dans l'histoire du salut, que notre foi est grande et belle. Quel a été l'engagement du Père Lantéri à la suite du Christ? Quelle a été sa libre réponse d'amour à l'amour de Dieu? Quelle est la parole de Dieu qui a été comme le fondement de toute sa vie, hein? Quelle a été sa mission? L'encyclopédie de l'époque, l'encyclopédie de l'ecclésiastique qui s'est publiée à Turin en 1865 au volume on trouve ça au volume 3, décrit le Père Lantéri, 35 ans après sa mort, comme étant l'homme aux 100 langues et aux 100 bras. Cette description lui convient à merveille, car à regarder la vie de cet homme, on reste étonné du nombre d'activités et de champs d'intérêt dont il s'occupe, tellement qu'on est même tenté d'entrevoir tout cela, dans tout cela, une certaine dispersion peut-être. Ce qui permet au Père Lantéri d'unifier heureusement toute sa vie, c'est sa rencontre de tous les instants avec le Christ, hein? Bruno Lantéri n'a qu'un seul désir, grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'a, nous? Grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Je vous rappelle, à 11h le soir, mon Dieu, j'oublie son nom, 2 secondes, on fait la lecture spirituelle. Jean-Guy Cloutier fait la lecture d'une vie de Jésus. Superbe! Grandir dans la connaissance de Jésus-Christ, c'est un moyen de... Et il considère Jésus comme son ami, son compagnon, son modèle, mais aussi son roi et son Seigneur. Et toute sa vie intérieure à ce prêtre consiste à contempler son Seigneur, puis à chercher de plus en plus, dans la ligne des exercices spirituels de saint Ignace, à rendre sa vie conforme à celle du Christ. Conforme à celle du Christ. Toujours se demander, qu'est-ce que Jésus ferait s'il était à ma place? Va se laisser transformer de jour en jour par ce Jésus merveilleux qu'on contemple. Et dans sa direction spirituelle, le Père Lantéri ne cesse de rappeler l'importance de la lecture spirituelle, justement, de l'oraison aussi. Faire le silence, se mettre en présence. Puis de la fréquentation des sacrements, si possible tous les jours, avec piété, recueillement et ferveur. Tout cela n'a pour lui qu'un but. Susciter, faciliter une rencontre profonde avec Jésus-Christ. Bruno Lantéri est convaincu que notre union avec le Christ, c'est le principe d'unification de toute notre vie et de toute notre personne. C'est pourquoi il ne tolère pas que quelque chose fasse obstacle à notre union avec le Sauveur. C'est pourquoi il accorde beaucoup d'importance à l'examen conscience tous les jours, revenir ne serait-ce que 3-4 minutes sur notre journée, avec peut-être un examen conscience écrit, et aussi à ce qu'il appelle l'examen particulier qui nous fera progresser sur un point précis de notre vie. Il nous invite aussi à examiner chacune de nos actions pour voir si elle était vécue en union avec Jésus. Alors la contemplation de Jésus, puis l'union avec Jésus comme maître, ont pour effet de faire grandir en Bruno Lantéri, ce jeune prêtre, le désir d'imiter celui qui a donné sa vie pour nous par amour. À l'imitation du Christ, le Père Lantéri veut donner sa vie par amour pour ses frères et sœurs. Il veut mettre toutes ses énergies au service de ce qu'on appelle le royaume intérieur, au service de l'amour, quoi, avec un A majuscule. Comment va-t-il assurer le succès de sa mission? Ben, en devenant un homme d'Église. Et s'il y a une évidence qui a pris jour dans le cœur du jeune Bruno Lantéri alors qu'il était en formation pour devenir prêtre, c'est la suivante: pour demeurer uni au Christ, il faut demeurer uni à l'Église. C'est clair, hein? Cessons de critiquer et de rejeter notre Église. Regardons ce qu'elle a de beau. Le Père Lantéri a toujours eu en lui un grand souci et un grand amour de la vérité. S'il y a une parole de Dieu qui a eu un sens, qui a un sens à guider sa vie, là, c'est cette parole de Jésus: la vérité vous rendra libre. Mais où pouvons-nous être certains de trouver la vérité sinon dans cette parole que Dieu lui-même nous a révélée? Et je vous le rappelle, dont l'Église dans son ensemble est la gardienne fidèle. Et qui au sein du peuple de Dieu peut interpréter de façon plus sûre cette parole révélée que le magistère vivant de l'Église? Oui, je le répète, le magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom même de Jésus-Christ, d'où l'attachement du père Bruno Lantéri à l'enseignement des évêques, et spécialement celui du pape, principal représentant du Christ sur la terre. Et cette parole de Jésus à Simon-Pierre a profondément marqué Bruno: « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Si le Père Lantéri vivait de nos jours, il proclamerait bien haut la bonne nouvelle de l'Évangile. Il ferait aussi en sorte que les documents issus du magistère de l'Église soient davantage connus, compris et appréciés par tous les membres du peuple de Dieu. Il veillerait certainement, à titre d'exemple, à ce que les trésors du Concile Vatican II, puis les richesses du nouveau catéchisme de l'Église catholique, soient communiqués au plus grand nombre possible de baptisés, hein. Les oblats de la Vierge Marie sont d'inspiration de saint Ignace. Le fondateur, c'est Bruno Lantéri. Et le père Lantéri était tout à fait conscient à son époque de l'importance des laïcs pour la vie de l'Église. Il savait s'entourer de laïcs afin d'être plus efficace dans son apostolat, parce qu'il voulait rejoindre le plus grand nombre possible de personnes dans toutes sortes de milieux dans la société. Il y a beaucoup de gens qui ont vu dans le père Lantéri le précurseur de l'action catholique. C'est qu'il était convaincu. Oui, il était convaincu que tout homme a une mission divine à remplir. Est-ce qu'on en est conscient qu'on a tous une mission divine à remplir? Il s'agissait pour lui d'aider la personne à découvrir cette mission et à l'exercer le mieux possible. Et voici ce qu'il dit à une jeune femme qu'il rencontre en direction spirituelle. Je vous ai dit que, à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, les oblats de la Vierge Marie sont très consentants à faire de la direction spirituelle. Il lui disait, cette femme: « J'ai été créée par Dieu pour le louer et le servir et par là me sauver. Non pas dans n'importe quel état de vie, mais dans cet état de vie où il me veut et dans lequel il m'a destiné. » Alors, en accordant tant d'importance aux laïcs dans son apostolat, en cherchant à les former pour qu'ils prennent davantage part à la grande mission de l'Église, il est bien vrai de dire que ce père Lantéri faisait œuvre de précurseur dans un sens. Aujourd'hui, alors que les laïcs occupent de plus en plus de place dans l'Église, les obédiens de la Vierge Marie ont pour rôle de les aider. Oui, de nous aider à découvrir la grandeur de notre vocation, de nous préparer à remplir notre mission ecclésiale, comme on dit. C'est-à-dire notre... ce que Dieu veut de nous, soit dans l'Église ou dans le monde, au cru de la foi, avec le Christ. Le Père Lantéri a exercé une grande influence sur le laïcat de son époque, mais aussi sur le clergé. Un de ses buts principaux a été de contribuer à la formation de prêtres, des prêtres compétents, et, il insistait beaucoup là-dessus, compatissants. Attentif aux besoins de son temps, ce prêtre italien s'est vite rendu compte des dangers qui menacent les jeunes séminaristes de son temps et les jeunes prêtres. Lui-même a encouru la menace de tomber dans l'erreur janséniste, hein, alors qu'il était séminariste. Et le père Lantéri se rend compte bien vite du danger que constitue l'isolement pour un prêtre. Le père Lantéri met donc sur pied une maison de formation pour jeunes ecclésiastiques, et les jeunes séminaristes et les jeunes prêtres peuvent y vivre dans un climat de fraternité et de silence qui leur permet l'étude, la formation théologique et spirituelle. Et s'il y a une idée qui est mise en relief de nos jours, hein, c'est bien l'idée de la formation permanente, on en parle tout le temps, dans toutes les sphères de la société, en particulier dans l'Église catholique. C'est aussi l'idée du père Lantéri qui considère la formation du prêtre comme étant toujours inachevée. Il faut toujours reprendre et avancer. C'est pourquoi, dans son directoire, qu'on appelle le directoire de congrégation, il insiste tant pour que l'oblat de la Vierge Marie soit un homme de silence, de prière et d'étude. Le devoir du prêtre de se mettre sans cesse à jour, c'est pour le père Lantéri une priorité. Et dans sa formation des prêtres, le père Lantéri préconise quoi? La morale, nouvelle pour l'époque de saint Alphonse de Ligorie. L'enseignement de ce grand moraliste met en relief quoi? La mansuétude, oh, c'était très critiqué ça, la mansuétude. On voulait tellement être rigoriste et janséniste. Il préconisait la miséricorde, oh, 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 la bonté, mon Dieu, puis la tendresse du Christ Jésus. Alors le père Lantéri a été un grand propagateur de la bonté de Dieu. C'est très important ça. Et c'est certainement une des missions des oblats de la Vierge Marie de tous les temps. On le sent quand on les rencontre d'ailleurs. Ils veulent être des témoins convaincants de l'infinie miséricorde du Seigneur. C'est ce que j'ai senti en les rencontrant. Il ne faut pas oublier de souligner son talent d'écrivain. Le père Lantéri a composé de nombreux textes, des opuscules pour réfuter les erreurs courantes de son temps. Il se fait aussi éditeur, traducteur, distributeur de nombreux ouvrages, mais il est important de préciser que l'apostolat qu'il semble préférer par-dessus tout, c'est celui de diriger les exercices spirituels de Saint-Ignace. Et jeune séminariste, le père Lantéri, c'est-à-dire le jeune Lantéri, a été formé par ce père jésuite dont je vous ai parlé tout à l'heure, Nicolas d'Isbach. Et très tôt, il fait l'expérience donc des exercices de Saint-Ignace. Et ces exercices ont une telle influence dans la vie du père Lantéri qu'il en a fait en quelque sorte l'apostolat privilégié de sa congrégation. Les exercices spirituels de Saint-Ignace contiennent les éléments essentiels pour permettre une véritable rencontre avec Dieu vivant. Et grâce à eux, on se met à l'écoute de la parole de Dieu fait chair. Puis on se dispose à quoi? À s'engager. S'engager, on a tellement peur de s'engager résolument à la suite du Christ. Il faut bien se décider un jour si on veut être heureux. Le père Lantéri dit ne pas connaître de moyens plus efficaces pouvant nous procurer la sanctification qui est le seul bonheur. Ne cherchez pas le bonheur en dehors de la sainteté. Ça ne sert à rien. Regardez autour de vous. Qui sont les gens heureux? Les saints, c'est tout. Ceux qui cherchent à être saints en tous les cas. Ceux qui se donnent au Christ. Le père Lantéri, en effet, tient à ce que les exercices spirituels soient prêchés non seulement à des groupes restreints, mais également, avec toutes les adaptations requises, là, à des grandes foules dans les paroisses. Hein. C'est ce qu'ils sont prêts à faire, d'ailleurs. S'il y a des prêtres qui m'entendent et qui les veulent comme prédicateurs dans leur paroisse, peuvent les inviter. C'est ce que l'on appelle à l'époque les missions populaires. Il y en faut dans nos paroisses des missions populaires de nos jours. Cette forme de prédication populaire est toujours bien vivante. Oui, de nos jours, elle se concrétise dans ce que on appelle les retraites, les ressourcements paroissiaux. Alors, le Père Lantéri ouvre des missions un peu partout, en Birmanie, en Amazonie, au Brésil. Bref, il faut proclamer la parole de Dieu. Il faut travailler la formation spirituelle des laïcs. Il faut collaborer à la formation des prêtres. Il faut annoncer et défendre les vérités de la foi, les valeurs morales évangéliques, hein, en utilisant les livres, la presse, les autres moyens de communication sociale. C'est ça le but de ces gens. Promouvoir l'apostolat missionnaire aussi. Ce sont tous ces apostolats qui ont exercé les premiers oblats de la Vierge Marie à la suite de leur fondateur, le Père Bruno Lantéri. Telle est la mission ecclésiale à laquelle on devrait s'engager encore aujourd'hui, et c'est ce que font les membres de la Congrégation des Oblats de la Vierge Marie. Pour lui, pour Père Lantéri, l'oblat doit mourir en prêchant et en confessant. Il ne peut pas mourir en s'en allant dans son condominium en Floride. Mais ce à quoi Bruno tient particulièrement, c'est à ce que les prêtres oblats adoptent un style pastoral, empreint de douceur. Et c'est vrai que c'est ça qu'on sent là-bas. De patience, d'amabilité. Ils sont comme ça, Notre-Dame du Perpétuel Secours, sur le boulevard Monk. Ils sont disponibles. Ils sont toujours aptes à manifester à tous la bonté divine, la miséricorde inépuisable du Père. Parce que le mal moral a été introduit dans le monde par la volonté libre de l'homme et de la femme. C'est le péché qui a introduit le mal dans le monde. Et depuis que le mal a été introduit sur cette terre, toute l'œuvre de Dieu, conjointement à celle de l'homme, a consisté à repousser ce mal, à le combattre, à le vaincre. Et Jésus, est-ce qu'il ne nous a pas enseigné à demander chaque jour dans notre prière qu'il nous délivre du mal? C'est pas lui qui va le faire tout seul. Il compte sur nous. Venez de ce titre, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin des hommes et des femmes. C'est d'ailleurs ce que notre Père ne cesse de faire pour nous. C'est ce qu'il fait de façon merveilleuse en nous envoyant son Fils. La parole de Dieu nous enseigne en outre que le mal et l'épreuve, s'ils sont bien vécus, peuvent même contribuer à notre bien. Saint Paul a bien dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, y compris le mal et l'épreuve. Saint Jacques, pour sa part, au début de sa belle lettre, l'avez-vous déjà lu la lettre de Saint Jacques? Oh, c'est beau, l'épître de Saint Jacques. Il nous dit que l'épreuve a pour but, dans le plan divin du salut, de nous conduire à la perfection. Il dit, mes frères, quand vous butez sur toutes sortes d'épreuves, pensez que c'est une grande joie, car l'épreuve qui vérifie la qualité de votre foi produit en vous la persévérance. Et la persévérance doit vous amener à une conduite parfaite. Ainsi, vous serez vraiment parfait. Il ne vous manquera rien, dit Saint Jacques. Je lisais ça vendredi, c'était le 4e anniversaire de la mort de mon fils à 40 ans. J'ai bien lu ça. Ça m'a consolé. Saint Jacques me console après 2000 ans. Cher Saint Jacques. La vie du Père Lantéri, on peut dire, elle est ici si l'on, par des épreuves, mais grâce à sa foi, il sait faire de ses souffrances un moyen de grandir. On a vu qu'une grande épreuve avait marqué l'enfance de ce jeune Bruno Lantéri. Sa mère est morte alors qu'il n'avait que 4 ans. Elle en avait 34. Et adolescent, il doit aussi vivre à 17 ans une dure épreuve. Il veut devenir chartreux, ça marche pas. La foi, bientôt, l'expérience apprendront à Bruno que lorsqu'une porte se ferme, Dieu ouvre d'autres portes. Il est une souffrance qu'il a dû accepter, apprivoiser et côtoyer tous les jours de sa vie, à savoir, c'est la maladie. Ce n'est pas par caprice que l'on a refusé de l'accepter à la Chartreuse, évidemment. Et très tôt, Bruno est affecté d'une maladie aux yeux, je vous l'ai dit, qui durera toute sa vie. Et malgré cette maladie des yeux, qui l'affecte grandement, Bruno est un homme qui consacre toutes ses énergies à lire puis à écrire quand même. Imaginez, c'est formidable. S'il veut que l'oblat de la Vierge Marie soit un homme d'études, c'est que lui, le premier oblat, en est un. Un des dons les plus remarquables de Bruno Lantéri est de découvrir rapidement les besoins très particulier des personnes qu'il rencontre. Puis là, et de savoir, c'est extraordinaire, immédiatement, de leur conseiller le livre qui est le plus susceptible de les aider, parce qu'il est cultivé. Et pour cela, il faut avoir beaucoup lu, évidemment. Puis il lut attentivement, malgré ses yeux. Mais Bruno n'a pas seulement beaucoup lu, il a aussi beaucoup écrit. Il écrit, souvent sans les signer, d'ailleurs, et donc de façon anonyme et sous un pseudonyme, des opuscules, des œuvres pour répandre et défendre les vérités de l'Église catholique. Il entreprend une large correspondance avec ses amis, ses dirigés aussi, les dirigés. Bruno Lantéri souffre toute sa vie de troubles pulmonaires, aussi cela l'empêche parfois de voyager, de donner des exercices spirituels, comme il le voudrait. Le père Lantéri, à l'exemple de saint Alphonse de Liguori, qu'il admire beaucoup, a d'ailleurs fait le vœu, écoutez bien, de ne jamais perdre de temps. Pas facile faire ce vœu, j'oserais pas le faire. Le vœu de ne jamais perdre de temps. Dans la vie du père Bruno Lantéri, parvenu à l'âge adulte, on peut retenir deux événements qui ont été particulièrement éprouvants. C'était vécu dans la foi et la confiance. C'était bénéfique, non seulement pour lui d'ailleurs, mais pour toute la congrégation des hommes. Là, le premier de ces deux événements a eu lieu en 1811. Et il faut rappeler quelque chose. En 1798, sous la poussée de Napoléon Bonaparte, le Piémont, qui est la région de Turin, dans le nord de l'Italie, là, avait été annexé à l'Empire français. Napoléon, devenu empereur en 1804, ne tarde pas à imposer son despotisme dans le domaine social, dans le domaine religieux. Bruno Lantéri devient très tôt le chef incontesté de la résistance contre l'occupant français. Pas là, l'occupant anglais, comme ici, non, l'occupant français. Et le 17 mai 1809, Napoléon Bonaparte pousse l'audace jusqu'à promulguer un décret annexant les États du pape à l'Empire français. Le pape Pie VII répond à ce geste par l'excommunication de Napoléon. L'empereur, dans sa fureur, mande son général de la gendarmerie d'aller arrêter le pape et de le conduire en prison à Savone. Et on peut imaginer la réaction de Bruno Lantéri, patriote, lui, lorsqu'il apprend que le pape a été fait prisonnier par l'empereur, mais très tôt, Lantéri est soupçonné d'avoir conspiré contre l'empereur. Alors Lantéri demeure en exil, loin de toutes ses activités habituelles. Durant 3 ans, imaginez, il est prisonnier. Ça marque finalement, 1814, la fin de l'occupation française. Mais cet exil forcé de 3 ans constitue une épreuve. Oh, mais c'est bénéfique pour sa santé. Il ne fait aucun doute que le Seigneur se sert une fois de plus des événements pour conduire à lui, pour former ses amis. Une fois de plus, il apparaît évident qu'une épreuve vécue dans la foi et la confiance, ben, ça aide. Il existe une autre épreuve dans la vie du père Lantéri, sur laquelle je vais accorder 2 secondes, c'est l'épreuve trait à la fondation des Oblats de la Vierge Marie, hein, parce qu'il y a 3 prêtres qui s'approprient cette fondation. Et puis, ils imprègnent, le père Lantéri devient très tôt le véritable chef du groupe quand même, mais le groupe se sent appelé à fonder une congrégation religieuse, puis reçoit l'approbation canonique en 1816, et le père Lantéri écrit alors les premières règles de la congrégation qui sont acceptées. Les Oblats de la Vierge Marie commencent alors leur travail apostolique, et les résultats ne se font pas attendre, je vais vous raconter ça tout à l'heure. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le père Lantéri voit sa congrégation acceptée en 1817, alors il se lance dans l'apostolat. Il écrit en une seule année, dans la petite ville de Carignan, dans le nord de l'Italie, plus de 1400 personnes qui, depuis des dizaines d'années, ne faisaient plus leur part, c'est-à-dire ils ne communiaient pas jamais, reviennent à la pratique religieuse. 1400. Mais Carignan ne suffit pas à occuper le zèle des nouveaux missionnaires. Alors, on les demande dans les paroisses, dans toutes sortes de paroisses. Ils vont porter dans tout le Piémont cet esprit de miséricorde et d'amour. Ils vont porter ce sens chrétien des sacrements de pénitence et surtout d'Eucharistie, que le rigorisme janséniste a ruiné presque entièrement, partout. Et les Oblats font donc merveille dans les paroisses où ils sont appelés. Aujourd'hui, c'est pas le jansénisme qui empêche les gens de pratiquer, c'est le contraire. Le laisser aller, je ne sais pas comment appeler ça. C'est épouvantable. Mais deux ans plus tard, en 1819, la situation se détériore et le nouvel archevêque de Turin, Mgr Cavérotti, sur le conseil mal avisé de certaines personnes, en vient à mettre en doute la morale de Saint-Alphonse de Ligorie qui semble trop large et que les oblats propagent. Ah, ah. Alors là, le père Lantéri se voit dans l'obligation de dissoudre la congrégation. Il s'abandonne à la volonté de Dieu, mais il a toutefois une conscience très vive et certaine de ce charisme que Dieu lui a confié. Ainsi, après seulement deux ans et demi d'existence, la congrégation nouvelle disparaît. Certains oblats de la Vierge Marie, ex-oblats, tout en continuant de donner les exercices spirituels de Saint-Ignace, ils vont travailler à l'hôpital de Turin. D'autres entrent chez les Jésuites. Le père Lantéri éprouve le désir de se joindre lui aussi à la compagnie de Jésus. Et ça fait cinq ans que la congrégation est dissoute lorsque le 25 mai 1825, le père Lantéri, 65 ans, se présente à Chieri auprès du père Rotan, jésuite, pour faire une retraite de 8 jours. Il est encourageant de voir que le père Lantéri a connu l'épreuve et de ne pas savoir toujours, tout de suite et tout d'un coup, quelle était la volonté de Dieu à son égard. Ça peut nous encourager. Imaginez sa souffrance. Il croit sincèrement que son charisme vient de Dieu, mais voilà que depuis 5 ans, sa congrégation est dissoute. Les oblats sont éparpillés. Il décide donc de se mettre en retraite sous l'Esprit-Saint et de faire les exercices de Saint-Ignace. Il veut connaître la volonté de Dieu, ce Dieu de l'imprévisible, qui lui inspire d'oublier la compagnie de Jésus et de refonder la congrégation des oblats de la Vierge Marie. Alors on peut imaginer la scène, un homme de 65 ans, très malade, décide de fonder une congrégation. Le père Lantéri ne s'inquiète ni de son âge, ni de son état de santé. La congrégation des oblats de la Vierge Marie reprend vie en 1825, 17 septembre, mais cette fois à Pignerolles et pour de bon. C'est pas facile. Mon Dieu, quelle faveur pour mon épiscopat, dit l'évêque, Mgr Ré. Malheureusement, le père Lantéri ne guidera sa congrégation que durant 5 ans, puisqu'il va mourir en 1830, des suites normales de sa maladie. C'est lui qui, à l'âge de 22 ans, s'était entièrement consacré à la Vierge. Eh bien, celui qui a donné le nom de la Vierge Marie à sa nouvelle congrégation est assuré que Marie, comme une mère, va veiller sur ses oblats. Sur son lit de mort, le père Lantéri confie à ses confrères oblats de la Vierge Marie: ce n'est pas moi qui suis le fondateur de cette congrégation, c'est la Sainte Vierge. Elle continuera à la gouverner, comme elle l'a toujours fait. Aux frères qui l'assistent, il dit: « Je vois une dame qui me met un enfant sur la poitrine et en même temps, je ne puis plus respirer. » Et ayant prononcé ces paroles, il sourit et son visage est rempli de douceur. Le frère qui est à son chevet devine que la mort doit désormais être toute proche. Il va chercher tous les membres de la communauté. Ils arrivent pour entendre les dernières paroles de leurs compagnons, de leur maître. Aimez-vous beaucoup les uns les autres. Restez toujours unis de cœur, quoi qu'il vous en coûte. On commence autour de lui à réciter les prières des agonisants. Quand on arrive à ces paroles tirées de l'évangile de Saint Jean: Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Eh bien, le père Bruno Lantéri fait signe de répéter cette prière du divin maître. Et à peine la phrase est redite, qu'on voit le père Lantéri jeter un dernier regard, tout brillant d'amour, envers le tabernacle, puis, dans un doux sourire, sans aucun signe de souffrance, là, il rend le dernier soupir. Père Lantéri est mort le 5 août 1830, toujours bien vivant. À chaque oblat, il est demandé de révéler au monde au moins une facette du charisme dévoilé vécu par le père Lantéri. Et si vous voulez les rencontrer, je vous le répète, je vous le rappelle, ils sont à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, 5959 boulevard Monk, à Montréal.